Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'espoir d'un plan B sur le site de Bridgestone à Béthune. Le gouvernement, les élus locaux et les syndicats de l'usine du Pas-de-Calais veulent faire pression aujourd'hui sur la direction. Tous se réunissent sur place, sous la menace toujours d'une fermeture de l'usine. 863 personnes craignent le licenciement. Vous entendrez ces salariés dès le début de ce journal. Les tests rapides arrivent en Île-de-France. Une vingtaine de centres sont installés à partir d'aujourd'hui pour un résultat promis en 24 heures. Vous le comprendrez. Face aux contaminations grandissantes de Covid-19. Et puis nous irons aux États-Unis où la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême déchire la classe politique. La doyenne est morte vendredi dernier à un mois et demi de la présidentielle. Un poste essentiel est en jeu. On commence donc par cette visite prévue aujourd'hui à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, doivent y rencontrer les représentants du personnel de Bridgestone, les élus de la région, mais aussi la direction européenne du groupe. Bridgestone veut fermer son usine française, qui emploie 863 salariés. L'objectif de cette première réunion de travail à Béthune est de convaincre le fabricant de pneus d'investir sur le site pour éviter la fermeture. Les pouvoirs publics sont d'ailleurs prêts à aider financièrement une modernisation de l'usine. En attendant, il n'est pas question de grève sur place pour les salariés, Claire Mesureur.
Julien a 38 ans, un enfant en bas âge, une maison à payer et comme les autres, eh bien, il a repris le chemin des ateliers. Pour lui, il n'est pas question de faire grève après l'annonce de la fermeture du site quand il sait qu'au printemps prochain, il est susceptible de recevoir sa lettre de licenciement.
La seule chose qu'ils vont voir, c'est qu'on ne va pas être payé. Puisque apparemment, des pneus, ils n'en ont pas besoin, apparemment. Donc, faire grève, c'est bien beau, mais derrière, on n'est pas payé. Il faut essayer de prendre de l'argent où on peut le prendre pour l'instant.
C'est son père qui l'a fait entrer chez Bridgestone il y a 12 ans, parce que lui-même y a passé toute sa vie à fabriquer des pneus à Béthune.
Pour lui, c'est navrant. Comme beaucoup de monde ici, on se dit ça aurait été bien de faire sa carrière ici quand même. Même pour moi, il n'aurait jamais imaginé que ça serait passé comme ça.
Julien, lui, s'estime préservé. Il est encore jeune. Sa femme travaille au centre hospitalier. Il a lui-même suivi une formation d'aide-soignant en 2017. Mais il pense à ses collègues plus âgés. Allant l'avenue des ministres à Béthune, il n'en attend pas grand-chose.
Moi, les politiques, j'y crois pas une seconde. J'espère rien d'eux. Ça, c'est clair et net. Tout le monde peut venir fanfaronner ici. J'y crois pas une seconde.
Et à Béthune, la moyenne d'âge chez Bridgestone est de 43 ans.
Un clair mesureur de France Bleu Nord pour France Culture. Les règles concernant les cas contacts à l'école vont être assouplies dans les maternelles et les écoles élémentaires à partir de demain. Le ministère de l'Éducation nationale a détaillé ce nouveau protocole hier soir. Lorsqu'un enfant sera testé positif au Covid-19, sa classe pourra continuer de se tenir normalement pour les autres élèves. Pour qu'une classe ferme, il faut que 3 enfants soient positifs dans 3 familles différentes. Pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, par ailleurs, sachez que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France annonce l'ouverture de 20 nouveaux centres de dépistage dans la région. Un dépistage rapide avec un délai de 24 heures et massif, entre 500 et 1500 tests par jour. 2 de ces centres vont ouvrir cette semaine en Seine-Saint-Denis, où la mortalité avait augmenté de 130% au printemps par rapport à l'année dernière. Ces centres seront à Bondy et à Saint-Denis. Le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, s'en réjouit.
Tout ce qui permettra d'augmenter à partir de maintenant les capacités de dépistage et surtout de prioriser pour limiter les délais et permettre d'isoler les cas positifs, c'est absolument indispensable. 2 centres sont d'ores et déjà envisagés dans mon département, mais je crois qu'il faudra vraisemblablement monter en puissance encore si la situation de l'épidémie évolue, parce qu'encore une fois, tout doit être fait pour éviter la saturation dans les toutes prochaines semaines de nos hôpitaux et ne pas être contraint de remettre en place un confinement généralisé.
Le confinement généralisé, justement, il en est question depuis vendredi en Israël, ce qui n'a pas empêché quelques milliers de personnes de manifester hier dans les rues contre le Premier ministre. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 7h, mais à 6h34 sur France Culture, traversons la Manche vers la Grande-Bretagne, où il était aussi question de reconfinement. La rumeur court face à une augmentation sensible du nombre de cas positifs au Covid-19. Pour le moment, des mesures localisées sont privilégiées dans le pays. C'est le cas à Newcastle, dans le nord-est, l'une des villes où le taux de contamination est le plus élevé en ce moment. Les bars, les restaurants ferment à partir de 22h et il est interdit d'organiser des rencontres avec des gens extérieurs à son propre foyer. Les jeunes sont particulièrement visés par le gouvernement britannique et justement c'est la rentrée universitaire. Richard Place s'est donc rendu sur le campus de Newcastle.
Victoria réintègre sa colocation avec trois autres étudiantes. Entre les bâtiments encore bien vides de l'université, elle porte son sac et l'affirme. Elle va appliquer les restrictions à la lettre.
Oui, je trouve ça très bien. Le nombre de cas augmente, il faut agir. De toute façon, avec mes colocataires, nous passons notre doctorat, alors on va rester dans notre bulle.
Tous les étudiants ne sont évidemment pas aussi sages. Sous une grande bâche, une scène avec des enceintes et des transats posés en rang, c'est une fête d'accueil qui se prépare.
Il y a une fête ?
Pourquoi on ne nous a pas prévenus ? Je pense qu'on va venir.
Tout sourire, Alex et Daniel arrivent tout juste pour leur année universitaire. Ils n'ont entendu parler d'aucune mesure et ont bien l'intention d'en profiter.
Tu dois rencontrer de nouvelles personnes. On va faire la fête, ça va être sympa.
25 000 étudiants sont attendus sur ce campus qu'Igor connaît bien. Il enseigne ici après avoir été élève.
Newcastle, c'est le centre de la vie sociale, des loisirs pour toute la région. Les étudiants s'y amusent bien.
La direction de l'université encourage le port du masque en cours. Chaque étudiant en recevra un, lavable, ainsi que du gel hydroalcoolique et un thermomètre.
C'était notre correspondant Outre-Manche, Richard Place. Les États-Unis ont proclamé unilatéralement hier l'entrée en vigueur des sanctions internationales contre Téhéran. Dans le même temps, le secrétaire d'État Mike Pompeo menaçait de sanctions secondaires ceux qui ne s'y conformeraient pas. Un nouveau bras de fer entre États-Unis et Iran qu'analyse pour nous ce matin Adavan Amir Aslani. Ce franco-iranien est avocat et spécialiste de l'Iran.
De toute façon, les Américains vont continuer à agir, peu importe la position des Nations Unies, parce que les Américains se cachent derrière la transposition internationale de l'extraterritorialité de leurs droits. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'effectivement les sanctions sont de nouveau imposées et ils vont se croire autorisés à sanctionner les entreprises non américaines qui travaillent avec l'Iran dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Et vont pouvoir effectivement leur imposer des pénalités. Le problème in fine, c'est que aujourd'hui, tous les secteurs de l'Iran sont sanctionnés par les Américains et il ne reste ni personne physique, ni personne morale à être sanctionné par les Américains. Donc, ça n'aura pas un effet mirobolant. Rappelez-vous que, avant le retrait américain, l'Iran exportait 3 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, avec le retrait américain et justement la menace que des sanctions américaines puissent frapper les acheteurs du pétrole iranien, les ventes pétrolières iraniennes ont été réduites à un pot de chagrin de 300 000 barils par jour. Tous les grands groupes internationaux qui se sont manifestés le lendemain de la signature de l'accord se sont retirés le lendemain du retrait américain. Donc franchement, je ne vois pas ce que les Américains pourront obtenir d'impactant sur l'économie iranienne avec ce show que le secrétaire d'État Pompeo essaie de transposer sur le comité international.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. Tempête politique aux États-Unis après la mort vendredi de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump a fait savoir qu'il comptait nommer très rapidement une remplaçante. Il imposerait donc un nouveau juge conservateur au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. L'enjeu est de procéder à cette nomination avant la présidentielle dans un mois et demi ou avant une éventuelle passation de pouvoir en janvier si le démocrate Joe Biden venait à l'emporter. Tout va se jouer au Sénat, Grégory Phillips.
Il y a 53 sénateurs républicains pour 47 démocrates. Une fois que Donald Trump aura révélé le nom de sa candidate pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, ce sera plutôt une femme, a précisé le président. Ce sont eux, les sénateurs, qui devront l'auditionner puis ensuite valider par un vote sa nomination à vie à la Cour suprême. La pression est énorme sur les épaules des sénateurs républicains, car comme pour leurs collègues démocrates, leurs sièges sont aussi remis en jeu le 3 novembre et le choix qu'ils vont faire aura des conséquences sur leur propre mandat, selon qu'ils auront facilité ou non le basculement complet de cette Cour suprême dans le camp conservateur. Pour l'instant, une seule sénatrice républicaine, Lisa Murkowski, élue en Alaska, traditionnellement très anti-Trump, a dit qu'elle s'opposerait à cette nomination car trop proche de l'élection. Sa collègue du Maine, Suzanne Collins, déclare aussi que le Sénat ne devrait pas faire cela, mais elle n'a pas tranché. Le patron de la majorité républicaine, Mitch McConnell, va donc toute cette semaine tout faire pour rassembler ses troupes. Si 4 sénateurs républicains font faux bond, alors le pari de Trump sera perdu. Mais pour la nomination du juge Brett Kavanaugh il y a 2 ans, et il était controversé, eh bien le camp républicain tout entier avait finalement voté sa nomination.
Et nous reviendrons sur les enjeux de cette nomination avec Camille Magnard et sa revue de presse internationale à 7h35 tout à l'heure sur Culture. Le temps de ce lundi, toujours instable au sud du pays, en traverse et orage. Un grand soleil au nord de la Loire avec 13 à 21 degrés ce matin.